vos questions.
Voilà. Je suis d'accord sur Edgar Morin, qui parle de laïcité comme interrogation ininterrompue sur le sens.
Ben, je pense qu'il n'y a pas de phrase plus, sans faire de la captation, hein, pas de phrase plus talmudique que cette... Bon, et le fait que Edgar Morin soit, même s'il le refuse, et qui est né dans une famille de talmudistes, c'est pas inoffensif par rapport à son parcours, même si... Et moi, je dirais, au contraire, tout ce qu'il a développé sur le sens, sur la notion de paradoxe, sur la notion de
complexité,
de complexité, c'est une formule, une reformulation laïque, sociologique et laïque de valeurs que je viens de développer. De la même façon que si on étudiait Freud, on pourrait montrer que une grande part de la psychanalyse, non seulement de l'herméneutique, mais la question aussi de l'inconscient comme autre nature de l'esprit à causal, au-delà de la causalité dont tu as parlé tout à l'heure, c'est des choses qu'on peut retrouver et développer, mais c'est très long, et surtout le soir, à 9h, et après une journée de travail, très, et puis une semaine de pluie, et
ça.
Voilà.
Moi, j'ai une question.
Oui.
Si je fais le lien avec le titre,
oui.
Est-ce que ça veut dire que pour vous, la morale juive, c'est en fait d'être en perpétuel questionnement.
Oui.
Peu importe qu'elle soit laïque ou pas laïque, ou vous dites c'est indépendamment de Dieu,
oui.
C'est qu'on se questionne.
Voilà. Mais j'aurais. Ce qui était intéressant dans le développement de Bernard, c'est qu'il a parlé de morale. Vous allez me dire c'est le titre. Mais j'ai une anecdote que j'aimerais quand même vous faire partager. C'est Rigueur qui la rapporte. Et il dit, quand j'ai fait mes études à la Sorbonne, il y avait encore beaucoup de librairies autour de la Sorbonne. Place de la Sorbonne, il y avait Vrin, il y avait les Puffs, et puis boulevard Saint-Michel, il y avait plein de librairies en dehors de la Gilles Jaune. Il dit, je sors la Sorbonne, c'est fantastique, et je trouve le livre qui s'appelle La morale de Brunswick. Il est content, il achète La morale de Brunswick. Il continue, et il voit L'éthique de Spinoza. Il achète L'éthique de Spinoza. Il continue, il voit un bouquin qui s'appelle La morale de l'éthique. Continue, il voit un bouquin qui s'appelle L'éthique de la morale. Et là, il se pose la question, mais quelle différence entre l'éthique et la morale? Et à partir de là, il va dire que c'est simplement une question de définition. C'est-à-dire que les mots sont identiques, on peut avoir la même signification. Morale vient du latin, qui veut dire les mœurs, et éthique vient de l'éthos, qui veut dire la même chose, qui veut dire les mœurs. C'est des questions de mode, c'est des questions d'habitude, donc c'est une question de définition. Et donc, effectivement, on ne peut pas parler de morale comme si la morale existait. Et votre question est éminemment pertinente parce que ça veut dire que, d'abord, qu'est-ce que la morale? Mais la morale ne peut pas être définie a priori, c'est toujours le résultat a posteriori d'une réflexion. Comme une conviction, ce n'est pas une croyance, c'est le résultat a posteriori d'une réflexion. Et l'idée forte de la pensée juive, c'est justement le fait de se questionner. Le premier mot du Talmud, c'est une question. Mais ma taille, à partir de quand? Si je ne me questionne pas, si je ne suis pas... J'aime bien ce texte de Kafka qui s'appelle L'examen. C'est ça se passe dans une auberge. Et puis, il y a deux ouvriers qui sont là en train de boire. Et un dit à l'autre, je te paye à boire. Et il dit, si tu réponds à la question... Alors il dit, quelle est la question? Il dit, la question, il dit, c'est ça la question. Il dit, excuse-moi, j'ai pas la réponse, je m'en vais, tu vas pas m'offrir à boire. Il dit, t'inquiète pas, t'as réussi à l'examen, seul celui qui ne répond pas à la question a réussi à l'examen. Donc la réponse à la question, c'est encore la question. Et là, sur cette question du questionnement, vous avez un magnifique texte des grands, grands penseurs et écrivain du XXe siècle, qui s'appelle Maurice Blanchot, qui, dans un livre qui s'appelle L'entretien infini, a une réflexion formidable sur la question de la question, justement. Voilà. Mais donc ça, c'est la morale juive, ou l'éthique du judaïsme, c'est le refus de toute pensée qui serait définitive. C'est le mouvement, c'est le devenir, et ça passe par l'interprétation, comme je l'ai souligné. Oui.
Questions et réactions.
que le judaïsme soit fondé sur un perpétuel, mais ok, perpétuel questionnement, il y en avait un tout, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est la première fois que j'entends des propos comme les vôtres, que j'ai envie de qualifier presque violent pour moi en tout cas.
Oui.
Ou alors c'est mon logiciel qui n'est pas adapté. Hein. Je ne suis pas, philosophe.
Pourquoi vous êtes pensé que c'est violent ?
J'y viens. De donner l'affirmation que finalement, ou alors je n'ai pas compris ce que vous avez dit, que maintenant, potentiellement Dieu n'existe pas, et que vous vous assumez athée, mais en même temps vous parlez de Dieu, quand vous dites que Dieu s'est mis à l'écart du monde, Dieu est... Mais ça veut dire qu'il y a Dieu quand même. Il est à l'écart du monde, d'accord, mais il y a quand même Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mon logiciel n'est pas adapté à comprendre d'un côté un propos qui dit je suis athée, je l'assume, Dieu éventuellement il n'existe pas, et d'un autre côté finalement de parler de Dieu et que dans tout le fondement de vos propos il y a de toute façon toujours Dieu.
Oui.
Donc je comprends pas, ça marche pas. Je vous demande pas de refaire le
propos. Non, je vais refaire, mais c'est très intéressant.
Ça marche pas, ça ne check pas chez moi.
Je comprends.
Et donc du coup, ma question aussi derrière ça, c'est de dire, est-ce que vos propos, c'est ceux d'une branche du judaïsme, ou c'est clairement le fondement de l'ensemble du judaïsme. Est-ce que n'importe quel rabbin de n'importe quelle branche du judaïsme tiendrait ce même propos de dire, quand vous avez dit un rabbin ne peut pas dire qu'il croit en Dieu, est-ce que c'est le discours officiel?
Le discours officiel dans le judaïsme, c'est assez difficile, puisque le judaïsme est défini comme l'impossibilité d'un discours officiel.
Oui, non, mais...
Bon. S'il y a des courants du judaïsme qui font une OPA sur le judaïsme, c'est leur droit. Mais on peut aussi le refuser. Maintenant, oui, parce qu'il fait très chaud, c'est ça ?
Oui, exactement.
Ce que je vous dis, par exemple, ça a été dit. Moi, la musique me dérange pas.
Ça vous gêne ?
Ce que je dis, par exemple, c'est ça a été dit par les plus grands maîtres, les plus grands maîtres mystiques. Ce que je vous ai dit sur il n'y a pas Dieu. Et il y a Dieu en même temps, c'est dit par Rabbi Nachman de Bratsa, mais c'est dit par Rabbi Sapria, qui est reconnu comme le plus grand maître de la Kabbale par tous les courants du judaïsme, que ce soit l'orthodoxie, l'ultra-orthodoxie. Seulement, il y a des courants du judaïsme, tous les courants du judaïsme sont fondés sur le même fondement, et certains courants comportent des adeptes, si on peut dire, qui n'ont pas le courage d'assumer l'enseignement qu'ils reçoivent. Je vous donne un exemple. Mon père, qui est grand rabbin, qui habite actuellement à Jérusalem, on parle de quasiment pas tous les jours, on parle souvent, donc je lui explique, on parle de ça. Je lui dis, mais est-ce que tu es d'accord que, tu es grand rabbin, est-ce que tu es d'accord que dire que Dieu, alors c'est pas la question Dieu existe ou pas, parce que athée veut dire que c'est une pensée sans Dieu. C'est-à-dire qu'on s'en passe très bien. Maintenant qu'il existe ou pas, c'est pas grave, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça change rien. Est-ce que tu es d'accord? Il m'a dit, je suis d'accord, mais j'ai jamais osé le dire. Maintenant, il faudrait que vous l'entendiez, vous, le dire, parce que si je vous le dis, ça peut être n'importe quoi. Maintenant, donc, tous les courants du judaïsme, dans leur fondement, pensent ça. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne veux pas refaire l'idée, je comprends que ça peut vous choquer parce qu'on est piégé par le fait que le judaïsme serait une religion et que toute religion est liée à une théologie. Voilà. Mais la théologie est une invention du christianisme. Il n'y a pas de théologie. Théologie, ça veut dire un discours sur Dieu, théologos. Il n'y a pas de théologien juif. Il y a des talmudistes.
La tradition rabbinique se débrouille pas mal quand même.
Okay. Ils se sont débrouillés parce qu'ils savent apprendre. Parce qu'ils ont appris, et puis ils ont appris, pourquoi ils ont appris? Parce que très rapidement, ils ont été sollicités dans des débats contradictoires avec des théologiens chrétiens, en particulier sur la question du Nouveau Testament, la venue du Messie, etc. Donc ils se sont adaptés à la théologie pour pouvoir discuter, pour pouvoir débattre. Mais la première question du judaïsme, la première question du Talmud, donc de l'interprétation, c'est à partir de quand peut-on faire la prière du soir ? Vous allez me dire, c'est quoi cette question? La question, elle est très simple. Le soir, c'est le soir. Et le soir, c'est la sortie des trois étoiles. Dès qu'il y a sortie de trois étoiles, eh ben, on peut commencer la prière du soir. Qui s'appelle en hébreu, cette prière s'appelle Shoma Israël, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Donc là, on a l'impression qu'il y a de la présence du divin. Mais ça dépend comment on l'interprète. Mais avant même, Shema Israël, c'est-à-dire écoute Israël, à partir de quand on fait la prière de l'écoute? On répond à partir du moment où les prêtres rentrent pour manger le pain qui leur a été offert. Alors le Talmud s'étonne, il dit, mais pourquoi tu me dis à partir du moment où ils rentrent pour manger le pain qu'on leur a offert? Dis-moi, et alors c'est quand l'heure où ils rentrent manger? Ben, à la sortie des trois étoiles. Alors dis-moi qu'évidemment la prière du soir se fait à la sortie des trois étoiles. La réponse de lui, non. Parce que la question, c'est à partir de quand entend-on quelque chose? À partir de quand y a-t-il de l'écoute? Réponse, à partir du moment où ceux qui ont faim peuvent rentrer chez eux pour manger. C'est-à-dire que l'idée, c'est très simplement, c'est que l'éthique, définie comme la relation à l'autre, comme le bien-être de l'autre, comme le respect de l'autre, l'éthique précède le métaphysique. Et si vous relisez, non seulement Lévinas, page 50 dans Totalité Infinie, mais si vous relisez Maïmonide, qui est considéré comme le plus grand des théologiens juifs, dans le dernier chapitre du troisième tome, il dit « Dieu, vous serez comme Dieu, vous serez dans l'imitatio Dei, vous serez comme moi, il ne s'agit pas de croire en Dieu, mais d'être en relation avec Dieu. Et c'est quoi être en relation avec Dieu? C'est être en relation avec les hommes. Si un homme a faim, donne-lui à manger. » Maintenant, imaginez par exemple que vous voyez quelqu'un dans la rue, il a faim, il dit « j'ai faim ». Vous voyez quelqu'un dans un bateau qui s'appelle l'Aquarius qui dit « j'ai envie d'arriver quelque part ». Excuse-moi, mais non, mais c'est pas le moment, il n'y a pas de loi pour ça, c'était loin de la France, etc. Donc, on passe son chemin par rapport à l'appel de l'autre. À partir de quand y a-t-il de la prière, c'est ça le sens de la phrase, à partir du moment où j'entends la faim de l'autre, c'est-à-dire le besoin de l'autre, le désir de l'autre, le plus haut niveau de ma spiritualité, c'est d'entendre le besoin matériel d'autrui. Et si je crois que je peux être spirituel, c'est-à-dire m'élever dans la transcendance, dans la méditation, me rapprocher du divin, en oubliant cet aspect concret, tout à l'heure tu citais à juste titre « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », bon, qui est une phrase du Lévitique, avant d'être une phrase de... moi je pense que, personnellement, mais bon, je ne suis pas chrétien, donc je ne veux pas parler au nom du christianisme, mais je pense que le message du Christ, en tant que juif, hein, je parle de juif qui entend le message du Christ, c'est que le christianisme, sa grande révolution, à une époque où certains juifs pouvaient penser qu'il y avait une transcendance dans une relation directe au divin, a inversé ce rapport, et que le Christ, c'est celui qui vient enseigner que l'éthique précède la métaphysique. Maintenant, cet enseignement qu'on trouve dans les évangiles, d'une certaine manière, va se retrouver ensuite, il ne faut pas oublier que le Talmud est énoncé, construit, pensé en même temps que les évangiles et que le Christ historique, je ne parle pas du Dieu théologique, est un rabbin du Talmud. Donc ce qu'il dit et ce que les maîtres du Talmud disent, avant que ça devienne une religion paulinienne, ce sont des choses qui sont très proches. Et cette idée de la fin de Dieu.
Matthieu, en chapitre 25, dit j'avais faim et tu m'as donné à manger, j'étais nu et tu m'as habillé.
Voilà, c'est ça.
L'éthique.
Ah, ce que je trouve, c'est quand même en vous écoutant, pour moi, la grosse différence aussi, ou la grosse révolution, pour employer votre terme, c'est que dans le christianisme, la transcendance s'incarne dans la création.
Oui. S'incarne et ensuite implique, induit une foi dans le Christ.
La vraie différence, c'est le dogme, en fait.
Oui,
c'est bon clair. Oui. Elle est là, et le dogme temporalisé.
Oui, c'est ça.
Puisque
et institutionnalisé.
Ce qui me surprend, enfin, ce que j'ai retenu dans vos deux présentations, c'est que d'un côté, on a parlé d'éthique, de l'autre, on a parlé de droit.
Oui.
Or, pour moi, le droit n'a rien à voir avec la morale. le droit est amoral.
Oui.
Au sens où il est athée, de la même manière. Le droit et la morale sont deux choses qui ne se recoupent pas, qui se recoupent dans l'individu, dans son rapport à l'application de la règle et à ses références éthiques, mais le droit en tant que tel n'a rien à faire avec la morale.
Je ne suis pas d'accord, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a de droit que de droit moral.
Oui.
Non, je ne suis pas d'accord.
C'est-à-dire que tu ne tueras pas
est un droit. Ce n'est pas du droit, tu ne tueras pas.
Non,
c'est de la morale. Bah le crime est réprimé, le crime de meurtre est réprimé de 20 ans de prison, c'est du droit.
Oui.
C'est pas de la morale.
Mais ça procède de.
Non, mais non, justement.
Alors je vais vous donner une autre.
C'est pas du tout la même approche.
Je vais vous donner une autre.
C'est un héritage.
Non, vas-y. Je vais vous donner une autre règle que vous allez retenir. C'est-à-dire que si on a retenu qu'une seule chose, on a dit c'est la dualité de la loi écrite et de la loi orale, qui fait qu'il y a interprétation, questionnement perpétuel, etc. Qu'il n'y a pas de dogme, que du consensus, que la loi. Tel qu'il est donné même la loi, non seulement liturgique, mais la loi c'est un consensus. Si on décide qu'on s'arrête au feu rouge, c'est un consensus, il n'y a pas de loi naturelle. Mais il y a une chose qui est le deuxième fondement du judaïsme, c'est que toute loi doit être pensée philosophiquement. Donc ce n'est pas de la morale ou de l'éthique. Ce qu'on appelle la loi s'appelle la halakha, H-A-L-A-K-H-A, halakha. Et la philosophie du droit s'appelle la Haggadah. Et une des vocations de l'étude et de l'interprétation, c'est de manière inlassable de rechercher des explications qui sont à chaque fois renouvelées du sens du droit, que ce soit le droit social, le droit de la famille, le droit politique, le droit individuel, etc. Mais ça veut dire que... voilà. Et donc, c'est pas simplement éthique ou morale, parce que éthique et morale, c'est aussi une invention, je dirais, de la philosophie occidentale. La question, c'est savoir, et c'est pour ça que tu as dit quelque chose d'essentiel, c'est savoir quel sens je donne aux gestes que je fais. Voilà. La question du sens, c'est la question essentielle. Le sens, c'est-à-dire le goût, aussi en hébreu, ta'am, c'est le goût. Quel goût, quel sens cela donne à ma vie? On est dans la compréhension. On n'est pas seulement dans l'explication, comme vous dites, il y a l'explication du droit, on peut le définir, il y a des lois, etc. Mais quel sens cela donne? Et étudier, c'est se poser la question à chaque fois, mais quel sens cela a? Quand je dis, on prie à partir de la sortie des trois étoiles, c'est une information. Maintenant, quel sens je donne à cette loi? Voilà, ça c'est une interprétation. Maintenant, dans ces interprétations, certains vont les choisir de manière mystique ou autre. Le Talmud a choisi de dire que, et c'est une règle a priori, enfin une règle d'interprétation, pour que cela fasse sens, choisis que ton interprétation, a priori, ne fasse pas intervenir le divin. Parce que si tu fais intervenir le divin, tu fais intervenir une catégorie qui n'a strictement aucune signification réelle, puisque personne ne sait exactement ce que c'est. Si on savait, ce ne serait justement pas divin, parce que le divin est la transcendance absolue par rapport à la raison humaine. Donc si je dis « je sais ce qu'est Dieu », je détruis déjà le divin. Le divin, c'est la transcendance. Dans le judaïsme, le divin, c'est quatre lettres. Yod et Vav, c'est un tétragramme qui est ineffable, qui est imprononçable. C'est-à-dire que la capacité de se taire devant une réalité en disant « je ne sais pas », c'est une réalité, c'est une attitude face au divin. Parce que déjà, savoir, ça serait englober, enfermer. Et comment je pourrais englober le divin, s'il existe, qui est transcendant, à toute possibilité d'être enfermé. Ça va un petit peu dans la question que vous posez. Et je comprends très bien votre désarroi. Moi, j'ai été pendant très très longtemps. Une fois qu'on a compris que c'est une tension, et que vous imaginez les enfants malheureux qui découvrent à un certain moment, à l'adolescence ou après, qui sont dans un milieu dit traditionnel, et ils sentent profondément que ils se révoltent, que pour Dieu, Dieu pour eux, ça ne parle pas, ça n'a pas de sens.
Mais c'est pas la même chose de dire je ne sais pas, de dire je ne crois pas.
Bah oui, c'est ça, mais c'est ça, c'est justement c'est ça qui me bloque. Que vous ne savez pas, c'est normal.
Oui.
Qu'on ne sait pas.
Et être en
ce qu'est Dieu, c'est une chose.
Oui.
Mais par contre, j'ai la foi, je crois en Dieu.
Non.
Je ne sais pas comment il est, qui, quoi, qui, hein, si, mais oui. Il y a quand même.
Oui.
Oui. Enfin, je vois pas. Enfin,
pour revenir, peut-être, je trouve que. Vas-y.
Si je résume,
oui.
Comment on peut dire que le judaïsme est une religion monothéiste?
Qui a dit que c'était une religion monothéiste?
Bon, ben.
Et qui a dit que c'est une religion?
Bon, ben voilà, ok, très bien. Mais une fois qu'on a dit ça, ok, très bien.
Non, mais ça ne veut pas dire que je vote en touche, comme on dit. Ça veut dire que c'est une culture. Moi, de dire que c'est une religion, si ça veut dire une relation avec le divin, je dis non. C'est ce qui a été donné, c'est pas Dieu. Si Dieu avait voulu se donner aux hommes, il aurait dit « Bonjour, je m'appelle Dieu, j'arrive » et il serait arrivé. Sauf que les hommes n'ont jamais vu Dieu.
Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas.
Mais il nous laisse libre. Mais comment il nous laisse libre? Qui vous a dit qu'il nous laisse libre? Vous partez du principe déjà qu'il existe.
Absolument.
Quand Dieu a donné le livre à Moïse, il a dit « Fais attention de bien leur donner un livre. Mais moi, ils ne me connaissent pas, ils ne me connaîtront jamais. Ce qu'ils rencontrent, c'est un texte. » Donc c'est pas une religion. Le judaïsme, c'est une textualité. C'est une culture du texte. C'est une culture de la pensée en mouvement. Maintenant, toute tradition s'organise en fonction de rituels, en fonction de... vous savez, je vous donne un exemple. Vous savez à quoi ça sert la synagogue? Je vous donne les deux réponses. D'abord, la synagogue en hébreu s'appelle Bet HaKnesset, ça veut dire lieu de rencontre et pas lieu de prière. C'est une histoire, c'est une blague que je raconte, mais qui est très efficace. C'est Clinton qui téléphone à Rabin et dit à Rabin, comment ça se fait, vous, que les juifs, vous êtes au courant de tout avant tout le monde? Cours de la bourse, machin, truc. Il dit, c'est très simple, ça se passe le vendredi soir à la synagogue. Alors Clinton se déguise en rabbin, il met un chapeau comme dans un Rabbi Jacob, un vise, hein, des papillotes, un long manteau, il se balance avec tout le monde. Et il est très embêté parce qu'à la fin de la prière, il s'aperçoit qu'il n'y a vraiment aucune nouvelle, etc. Alors il fait à son âge, excuse me, what news? Il paraît que Clinton va arriver. Voilà. Donc ça, c'est... Maintenant, d'un point de vue réel, au-delà de la blague, moi j'assiste, je regarde les gens à la synagogue. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes qui, si elles ne venaient pas à la synagogue tous les matins, la synagogue, je parle à Marseille, la synagogue le matin, c'est 6h30. Des jeunes, des personnes plus âgées, des personnes à retraite, des personnes... Tout à coup, imaginez quelqu'un à la retraite, ça existe, hein, c'est pas une maladie. Et puis, il est tout seul chez lui, cette personne ou cette dame. Et puis, il n'y a rien qui le motive, il n'y a rien qui le fait sortir de chez lui. Toute la semaine, il va rester enfermé dans sa maison. Tout à coup, il y a ce qu'on appelle la synagogue, c'est tous les matins à 6h30, il va rencontrer d'autres personnes pour, pas pour prier nécessairement, mais pour discuter, pour dire bonjour, pour dire comment ça va, pour prendre le café après, pour prendre les gâteaux, puis sa journée, elle commence dans la rencontre. Quel bonheur! On ne va pas à la synagogue pour prier. Mon père disait à ses ouailles, il est grand rabbin à Marseille, quand il voyait des gens qui arrivaient à la synagogue, il disait, excusez-moi, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais que vous ne priez pas. Et non, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Faites ce que vous faites d'habitude, parce que quand de toute façon on prie, vous parlez, c'est pas la peine. C'est-à-dire que les gens se rencontrent. C'est une communauté. Voilà, il y a un des plus grands penseurs du judaïsme, que je vous demande de lire, parce qu'il écrit magnifiquement, c'est Buber, Martin Buber. Pas lire communauté qui est compliqué, mais lire je et tu, mais surtout lire un livre qui s'appelle Judaïsme, qui est maintenant chez Tel Gallimard, et qui va vous éclairer, encore mieux, un petit livre qui s'appelle Le judaïsme, l'homme selon la voie du chassidisme. Ça vient d'être réédité, c'est très beau, c'est ça. Un petit texte. C'est... voilà.
C'est je et tu.
Et le deuxième s'appelle Judaïsme. C'est chez Tel Gallimard. Le troisième s'appelle L'homme selon la voie du racisme. C'est dans ce petit livre où il y a cette histoire de ce Yankel qui habite à Cracovie et qui fait un rêve. Et le premier jour de rêve, on dit va à Prague sous le pont et la troisième marche, il y a un trésor. Cracovie, c'est quand même 600 km. Hein. Deuxième nuit, Yankel va à Prague, sous le troisième pont, il y a un trésor. Troisième nuit, il va à Prague. Bon, il n'en peut plus, il va à Prague. Et quand il arrive sur le pont, il veut descendre, mais là, il voit les gardes qui le regardent. C'est pas le dire. Et puis, au bout de quelques jours, les gardes disent, mais juif, qu'est-ce que tu fais là? Là, on te voit insistant, qu'est-ce que tu viens chercher? Et voyant qu'il ne peut rien faire, il leur raconte, il dit, ben voilà, j'ai fait un rêve. Moi, dit, va à Prague, sous le troisième pilier, il y a un trésor. Et le garde éclate de rire, il dit, écoute, toi, tu viens à Prague pour un trésor, moi, ça fait trois nuits que je rêve qu'à Cracovie, il y a un juif qui s'appelle Jan Kelbetzikel. Et sous son four, il y a un trésor. Alors, il retourne chez lui, il creuse et il trouve le trésor. Et Boubert dit, c'est-à-dire qu'en fait, des fois, on fait des chemins qui sont très très loin, on se détourne, on fait des détours, mais en fait, le trésor, il est chez nous. Mais on a besoin des autres pour le découvrir. Bah, la synagogue, d'une certaine manière, c'est qu'on a tous, le trésor en nous, mais le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre pour pouvoir découvrir ce que l'on est, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Je pense que cette idée de la communauté, c'est pour ça, je vais donner la parole tout de suite, mais je réponds parce que c'est une question vraiment essentielle par rapport, c'est quoi votre prénom ?
Pierre.
Pierre, une question essentielle. C'est quoi la religion juive ? Vous barrez la religion juive, mais parlez comme on peut le faire de la communauté juive. Et quand on parle de la communauté juive, ce n'est pas du communautarisme, c'est que l'essence idéologique dans un sens positif de ce groupe, de ce qui a pu être un peuple, de ce qui a pu être une nation, mais qui est un ensemble de personnes qui désirent vivre ensemble et pas enfermées ni refermées sur eux-mêmes, c'est la compréhension que l'essence même de l'homme, c'est la capacité de rencontrer l'autre. Et cette rencontre, c'est ce qu'on pourrait appeler la communauté. Et dans la Torah, hein, vous allez relire la Torah, il n'y a pas une seule fois le mot religion. Mais le mot qui est utilisé pour parler des enfants d'Israël, c'est Adat ben Israël, c'est-à-dire la communauté des enfants d'Israël, qui sont rassemblés autour de principes tels que j'essaie de vous le dire. Je sais que ce n'est pas facile parce que c'est un peu nouveau, tu vois, je t'interromps, vas-y.
Oui, non, moi je crois que ce que tu nous dis d'abord sur la laïcité est très clair, puisque tout est dans l'interrogation, donc on retrouve Edgar Morin et là. On se retrouve. Pour le reste, effectivement, je suis un peu de l'avis de Pierre, c'est un peu compliqué, parce que ça semble être beaucoup plus sémantique que philosophique. Tu ne crois pas en Dieu, mais tu crois en la transcendance. Ça va être compliqué, là. Hein? Ça va être très compliqué, ça. Tu ne crois pas en Dieu, mais c'est Dieu qui a fait le livre. Je préfère être à ma place qu'à la tienne.
Oui. et moi la mienne, mais dernière question. Oui.
Juste, moi la réponse, en fait, je n'entends pas du tout la contradiction. Et je pour répondre à ce que vous venez de dire, je reprends quand vous me dites dans la déclaration de citoyen que l'être suprême, c'est pas du tout laïque. Au contraire, c'est infiniment laïque.
Ah bon?
Cette référence. Je ne connais pas de référence qui soit plus laïque que ça.
Ah bon?
Parce que justement, elle n'enferme dans rien, elle ne propose rien. On n'a jamais dit que l'être suprême était Dieu. On n'a jamais dit que c'était incarné. On s'incarne sous les auspices de quelque chose et on dit juste qu'on reconnaît ne pas savoir. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et pour répondre à Pierre, moi, je trouve ce que j'ai trouvé.
C'est un évêque qui a rédigé le texte. Et quand il écrit l'être suprême, je ne crois pas qu'il pense à autre chose.
Moi, je suis. Non, vraiment, vraiment, j'ai un gros
problème. Il s'appelle Champion de Cissé, c'est un évêque, évêque de Bordeaux.
Non, mais le problème, c'est que s'il pensait vraiment à Dieu et à un Dieu chrétien.
Non, mais il était révolutionnaire.
Oui, mais même.
Il ne pensait pas. Enfin, je pense que ce n'était pas l'enjeu. Et moi, la contradiction, enfin, cette tension-là, je trouve. Que là, vous l'avez abordé rapidement, mais l'arbre séphirotique, me semble-t-il, est une réponse extraordinaire à tout ça.
Oui.
En gros, tu as 25 cases, je ne sais plus combien il y en a.
Il y a 10 cases.
Il y a 10 cases. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 10 cases, enfin, c'est un ordre, et il y a un haut, un bas, un bas, un haut, mais on ne prétend pas que sur cet arbre séphirotique, il y a une position d'équilibre. C'est juste une position, et c'est comme ça que je l'ai compris, de mouvement permanent, et que ce n'est pas parce qu'il y a le royaume et la couronne qu'on va dans un sens unique, tu peux aller dans tous les sens. Tu peux emprunter plein de chemins, et l'intérêt, c'est de t'emprunter des chemins différents à chaque fois. Et par ce chemin-là, on ne prétend pas que tu arrives quelque part, mais que tu comprendras peut-être ce que ça veut dire à un moment ou à un autre. Et je trouve ça assez fascinant, c'est que c'est cette dynamique et cette interrogation permanente. Et une fois par là, une fois par l'autre. Je résume grossièrement, peut-être que c'est caricatural ce que je dis.
Non, mais c'est pas mal, mais moi j'irais plus du côté de la notion d'équilibre, parce que la balance, par exemple, qui est le symbole de la justice, dit que ça peut peser d'un côté ou de l'autre, mais ce qui est intéressant, c'est le fléau est au milieu, c'est quand il y a un équilibre. entre il y a pas, ce qui est intéressant, c'est l'équilibre. Mais bon, moi je pense qu'il faudrait continuer à un autre moment sur texte, parce que là c'était vraiment comme ça, bâton rompu. J'étais un petit peu aussi dans la réaction par rapport à la conférence de Bernard, donc un petit peu pour situer, et puis donner une grande ligne. Mais je pense que ça mériterait d'autres rencontres pour
absolument
des textes.
Ben oui, il va falloir refaire des choses.
On a tellement de temps qui nous reste.
C'est là, vraiment la dernière conférence cette année.
D'accord.
Ah ben, c'est terminé mercredi prochain.
Il y a dans le programme des conférences au judaïsme.
Ah oui, carrément, bien sûr.
Au bout de ce cycle, je trouve vraiment qu'il y a une thématique qu'on a trop peu traitée parce qu'elle est compliquée. C'est cette question, on l'avait abordée dans une toute première conférence, mais très rapidement, sur religion sacrée et la question effectivement d'un espace athée au sens où vous définissiez, on peut avoir une réflexion religieuse athée. Et je trouve que ce serait pas mal qu'on revienne. Moi, j'aimerais travailler sur cette question.
Il y a une spiritualité athée, j'en ai parlé.
C'est pour ça, je pense qu'on était d'accord tous les deux là-dessus. Mais sur cette question, moi, je l'appelle sacrée parce que c'est mon vocabulaire, c'est mon côté du Mésil. Mais je trouve ça.
Sacré au sens de ce qu'il y a à part, on est bien d'accord.
Sacré, enfin, c'est l'opposition au profane, et c'est l'opposition pour moi. Le sacré, c'est ce que je ne sais pas.
Régis Debray, qui est athée, il parle d'invariant sacré.
C'est ça. Et c'est intéressant parce que Debray, dans son écrit, dit je me rends compte que le mot sacré, finalement, était même pas bon et qu'il a braqué inutilement alors qu'il posait une bonne question.
Lévinas, en tout cas, qui a écrit un livre qui s'appelle Du sacré au saint, préfère parler de sainteté plutôt que de sacré, pour certaines beaucoup de raisons.
Ouais.
Mais je pense que vraiment la question qui a été abordée ce soir, ça, c'est peut-être le résultat de nos deux interventions, c'est qu'est-ce que c'est qu'une transcendance qui ne soit pas une transcendance théologique. C'est-à-dire qui se réfère nécessairement à tel ou tel Dieu. Lévinas a une certaine proposition qui est un peu compliquée. Il dit c'est l'institution. Et l'institution qui est transcendante. Par exemple, les juges qui sont complètement, même s'ils ont une subjectivité, mais la construction de la loi est telle qu'elle permet d'assumer une certaine subjectivité avec l'objectivité de l'institution juridique et que c'est cette dimension de l'institution qui est transcendante. Et Lévinas dit, j'espère qu'un jour, lisez un livre qui s'appelle Liberté et commandement, où il oppose la tyrannie à cette dimension de la liberté amenée par l'institution. C'est les institutions
qui fait bien.
Non, mais c'est bien ça.
Oui.
Parce qu'à un moment, la question aussi, c'est qu'est-ce qui assure qu'est-ce qui est le point extérieur de l'institution qui interroge la qualité de l'institution,
voilà,
au sens de rigueur, quoi, de structure juste.
C'est ça.
Et là, tu retombes sur le même problème.
On retombe sur en fait un problème simple qui est celui de la responsabilité individuelle et collective face à ces interrogations. Simple, qui est insoluble, mais que je trouve assez. Poser le débat en termes de. Parce qu'on a parlé en termes de morale, mais les conséquences qu'on en tire interrogent, me semble-t-il, un enjeu de responsabilité.
Je pense qu'il y a aussi une piste.
Il peut y avoir effectivement une transcendance sans Dieu.
Bien sûr.
On peut la penser tout à fait. Il y en a qui l'ont pensé d'ailleurs. Notre ami parle quand même d'une transcendance qui parle. C'est là où j'ai les problèmes.
Je comprends bien.
Merci.
Merci à vous. Merci.